Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h43, en direct de Lille, Elisabeth Martichoux, vous recevez aujourd'hui Xavier Bertrand, président Les Républicains de la région des Hauts-de-France.
J'allais trop vite. Bonjour Xavier Bertrand.
Bonjour.
Vous avez été extrêmement discret, c'est moins qu'on puisse dire, sur la scène nationale ces dernières semaines et même ces derniers mois. Merci d'être en direct avec nous ce matin, en effet, en direct du bureau RTL de Lille. Première question, est-ce que quand il y a un soupçon, quel qu'il soit, sur un ministre, il vaut mieux qu'il démissionne? Est-ce que c'est une bonne doctrine ou pas? Pour vous. Je parle évidemment de l'affaire Ferrand.
Vous parlez de l'affaire Ferrand, alors c'est surtout un problème par rapport à la promesse du président de la République. La promesse du président de la République, c'était de bâtir un monde politique nouveau. Et dans l'ADN d'En Marche, il y avait la probité, l'intégrité, l'exemplarité. Cette promesse, elle est morte. La loi sur la moralisation de la vie politique, que je souhaite, pour ma part, si j'avais été parlementaire, je l'aurais votée, même si, à mon avis, il faut la compléter avec un vrai statut de l'élu. Cette loi, c'est en quelque sorte la loi sur la moralisation, sauf pour M. Ferrand. Et le président de la République, on dirait qu'il est en ce moment en train de faire une forme de bras de fer avec la presse. Mais en fin de compte, il est surtout très, très fermé. Fermé vis-à-vis de l'opinion publique. Quand il y a le Premier ministre que vous recevez demain, qui dit que les Français sont exaspérés, mais qu'il n'y a rien à changer concernant M. Ferrand, comment vous voulez que les Français puissent encore croire à cette promesse d'un nouveau monde politique? En définitive, il n'y a pas beaucoup de différence entre En Marche et les vieux partis traditionnels tels qu'ils étaient dénoncés par le président de la République.
Alors, si vous me permettez, vous n'y allez pas de main morte. La loi de moralisation est morte, justement, dites-vous. Donc, ce n'est pas seulement une tâche sur le début du quinquennat, d'Emmanuel Macron. Pour vous, c'est presque un texte fondateur compromis par la situation personnelle de Richard Ferrand.
Oui, cette proposition de loi, elle est aujourd'hui décrédibilisée. Et je suis impatient d'entendre François Bayrou, je crois qu'il parle aujourd'hui, pour présenter ce texte. Il a été très discret, muet sur cette question, lui qui en permanence pourfendait ceux qui prenaient des distances avec non pas seulement la légalité en politique, qui commettait des actes illégaux, mais surtout sur la moralité. J'aimerais qu'il nous dise s'il pense que l'attitude de M. Ferrand a été morale ou pas, et si lui, François Bayrou, on peut lui poser la question. Il était candidat à la fonction suprême. En tant que président de la République, est-ce qu'il aurait gardé M. Ferrand? Parce qu'il y a aussi des choses qui sont à voir dans la loi, pour ce qu'il en restera.
Donc vous pensez que Emmanuel Macron aurait dû se séparer de Richard Ferrand?
Je ne suis pas Emmanuel Macron. Je suis président de région, je ne suis pas président de la République. Il n'y a qu'une personne qui peut prendre cette responsabilité au regard aussi de la promesse qu'il avait faite.
Oui, mais enfin, vous auriez trouvé normal qu'il se sépare ou pas? Vous dites, évidemment que c'est par définition, c'est le seul qui... Vous ne voulez pas hurler avec les loups et appeler à la démission, c'est
non,
ce que je comprends.
Non, parce que c'est toujours pareil. Parce que je suis de la droite et du centre, parce que c'est En Marche, on va dire, ah ben c'est normal, il demande la démission, tout ça. Ce que je sais, c'est que tout ceci continue à accréditer l'idée d'un tous pourri qui ne profite qu'aux extrêmes. C'est pour ça que j'en veux beaucoup à l'exécutif qui nous dit aujourd'hui, bon, ça a peut-être été grave, mais c'est pas si grave que ça pour l'avenir, on va tout effacer avec la loi sur la moralisation. Cette loi sur la moralisation, sauf pour M. Ferrand, je suis désolé, elle est aujourd'hui décrédibilisée. Et après, il y a une question très précise qui est posée. Au-delà des montages qu'a fait M. Ferrand, dont on ne comprend pas forcément tout, il y a la question, quand il était à l'Assemblée nationale, il continuait à être rémunéré par une mutuelle, c'était tout à fait rendu possible par la loi, il a pris part à des textes.
Il a expliqué, effectivement, on le lui avait demandé pour aider son successeur à manager cette mutuelle de Bretagne à partir de 2012, 1 200 € par mois.
La présidente de la commission des affaires sociales de l'époque avait dit, si je l'avais su, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est Mme Lemorton. Ça montre donc que demain, à l'Assemblée nationale, comment seront réglés les conflits d'intérêts? Je me permets de le dire, parce qu'en novembre 2011, j'avais fait voter un texte. On m'avait reproché qu'il était trop dur dans le domaine de la santé pour éviter les conflits d'intérêts. Mais là encore, j'aimerais savoir demain comment ce sera réglé concrètement cette question. Les activités de conseil seront interdites. Mais il faudrait dans ces conditions-là que toutes les activités de ce genre soient bien prévues. Il va avoir du travail, le déontologue, à l'Assemblée.
On en saura plus cet après-midi avec la présentation du projet de loi, du texte de François Bayrou. Il y a peut-être une disposition, en effet, qui interdit aux parlementaires concernés par un texte d'y prendre part.
Mais en attendant, l'attitude du président de la République, qui devrait s'expliquer plus largement sur cette question, son attitude est incohérente par rapport à toutes ses déclarations passées.
En attendant, son silence silence est éloquent. Il soutient Richard Ferrand. Pas question de le lâcher tant qu'aucune procédure judiciaire n'est ouverte. Voilà. Et vous dites ce matin que c'est politiquement déjà indéfendable. Ça peut lui coûter cher dans les urnes, le 11 et 18 juin.
Il y a que les Français qui décideront. Mais ce qui est vrai, beaucoup s'étaient tournés ou étaient prêts à se tourner vers En Marche en se disant ça y est, on va mettre un coup de balai sur toutes les anciennes pratiques, sur toutes les anciennes mauvaises pratiques et on va repartir d'un bon pied. Ça ne sera pas le cas.
Oui, mais notre sondage Kantar Sofresse Winepoint, publié mardi, alors fait le week-end dernier, montrait que les Français étaient prêts à accorder une très large majorité à la République En Marche. Vous qui aviez dit au Figaro, il y a quelques jours, qu'ils hésiteraient à donner les pleins pouvoirs au président, vous vous êtes trompé à ce stade.
Dans le même sondage, il y a plus d'un tiers des Français qui n'ont pas encore fait leur choix définitif. Bon, attendez, si vous voulez me faire dire que cette élection est très difficile pour la droite et le centre, je n'ai pas de problème pour vous le dire, parce que si j'étais discret dans les médias, je suis très présent sur le terrain, tous les jours auprès de plusieurs candidats.
La droite qui rêvait d'une revanche après la défaite de François Fillon.
Une législative, ça n'est pas la revanche d'une présidentielle. Et ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a nombre de Français, nombre de nos électeurs aussi, qui disent n'allez pas lui mettre des bâtons dans les roues pour lui mettre des bâtons dans les roues. Ne bloquez pas le pays. Moi, ce message, je l'ai complètement intégré, c'est ma position. Ils ne veulent pas d'une droite revancharde, le couteau entre les dents qui voudrait bloquer le président et bloquer la France. Mais en même temps, ils hésitent à faire un chèque en blanc pour 5 ans à En Marche à l'Assemblée. Et je pense qu'il y a entre ces deux voies une autre voie, celle d'une droite responsable, qui sait exactement qui elle est, qui sait où elle habite, mais qui fait aussi des propositions très concrètes pour les Français. On a beaucoup parlé de la moralisation,
mais
le pouvoir d'achat est aussi une question plus importante encore pour les concitoyens.
Absolument, mais la droite responsable que vous voulez incarner, elle reconnaît des débuts réussis sur la scène internationale, notamment d'Emmanuel Macron, hier en déplacement au Havre.
Oui.
À Saint-Nazaire, pardon.
Oui. Oui, que ce soit avec le président Trump, dont on dit qu'il s'apprête à prendre une décision insensée, que ce soit lors du G7, au niveau européen. Oui, je pense qu'il a pris ses marques maintenant, encore une fois. Tout est une question de suivi. Vous savez, politique, le problème n'est pas de briller, c'est de durer. Et de réussir, pas pour soi, pour le pays.
Et vous avez proposé d'entrer au gouvernement ?
Oui, la proposition m'a été faite, mais je me suis déjà exprimé là-dessus. Mais que voulez-vous ? Je suis un homme de la droite et du centre. Je n'oublie pas mes idées et mes valeurs pour un poste.
Vous avez proposé quel poste ?
On ne va pas revenir poser la question dans ces conditions-là au président de la République.
Non, mais
attendez, lui-même
vous avez répondu à cette question à voix du nom en disant oui, c'était Matignon.
Lui-même s'était exprimé me concernant à différentes reprises dans la presse, donc c'est un secret de polichinelle.
Il avait dit un large rassemblement de Jean-Yves Le Drian à Xavier Bertrand.
Ce qui est vrai, c'est que je ne suis pas prêt à oublier mes idées et mes valeurs pour un poste, même si c'est à Matignon.
C'est ce qu'ont fait Édouard Philippe et votre ami Gérald Darmanin ?
J'ai aussi une fonction formidable, dans une région formidable, et je n'ai pas été élu pour 16 mois à la tête de la région. Ce qui est vrai aussi aujourd'hui, c'est qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de faire une guerre civile avec la politique. Tout ça, c'est fini. Mais ce que j'aimerais bien savoir, c'est aujourd'hui, est-ce que le président de la République est ouvert sur les propositions que feront notamment les députés républicains et UDI dès le mois de juillet ? Je vous prends un exemple concret, si vous le voulez bien. La question du pouvoir d'achat aujourd'hui est une question plus forte encore qu'en 2007. Parce que depuis la crise, le chômage, les impôts, chômage qui n'a pas commencé en 2012 avec François Hollande, il faut le reconnaître, les Français vivent plus difficilement qu'à l'époque. Nous, ce que nous proposons, c'est que dès juillet, dès l'élection de la nouvelle Assemblée, les députés UDI et LR déposeront un texte sur le rétablissement des heures supplémentaires défiscalisées. Défiscalisation et plus de charges sociales à payer. Là, on va voir si le président de la République est ouvert ou fermé. C'est une mesure de bon sens. Il en avait vaguement parlé. Nous proposons le rétablissement de ces heures supplémentaires.
Alors, ce n'était pas dans son programme. Lui, il proposait non pas la défiscalisation, mais la restauration des exonérations de charges salariales sur les heures supplémentaires. Vous lui dites, si vous voulez vraiment travailler à la droite, comme vous prétendez le faire, prenez cet amendement, prenez cette proposition de loi.
C'est une proposition très concrète
qui
profite aux Français. Et il avait dit qu'il était prêt à faire peut-être une partie du chemin avec la partie sociale. Il faut aller jusqu'au bout, parce que les 9 millions de salariés qui font des heures supplémentaires ne volent le travail de personne, ne prennent l'argent de personne. Mais c'est un plus en matière de pouvoir d'achat pour que ceux qui travaillent, qui sont les éternels oubliés de la politique, aient aussi la possibilité de mieux faire vivre leur famille.
Alors, il vous a entendu, Xavier Bertrand, parce que vous avez en meeting tapé, entre guillemets, sur ce gouvernement qui voudrait attaquer le pouvoir d'achat par le biais du CSG. Hier, en Conseil des ministres, il a demandé que les retraités qui devaient être touchés par cette hausse de CSG ne perdent pas en pouvoir d'achat. Donc, voilà.
C'est la preuve, qu'une opposition responsable, c'est utile, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On voit bien que le président de la République cherche à gagner du temps. Ce qui peut sembler être le début d'un recul, bien moi je dis au président de la République, allez plus loin. Écoutez la voix.
C'est le début d'un recul.
Écoutez la voix des Français. Oui, mais moi, je veux le retrait de cette mesure. Et ce n'est pas le problème d'avoir un gain politique.
De la hausse de CSG. L'augmentation... Vous qui aviez soutenu François Fillon, qui voulait la hausse de la TVA.
Oh, vous savez, certains m'en avaient fait la remarque, ce n'est pas le sujet sur lequel j'étais le plus enthousiaste, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette position, je l'avais avant, je la confirme aujourd'hui. Allons jusqu'au bout sur la CSG. La question de la CSG, c'est qu'aujourd'hui, les salariés qui auront l'augmentation de la CSG seront compensés. C'est dit dans le programme d'En Marche. Mais pour les retraités, les choses sont très claires. Il n'y aura aucune compensation. Les retraités sont considérés comme riches à partir de 1 200 euros par mois, retraite de base, complémentaire, et même s'ils ont des petits placements. Et donc pour eux, ça va être quelques dizaines d'euros en moins tous les mois. Quand vous pensez qu'il y a 11 millions de Français qui sont à moins de 10 euros par mois sur leur compte à la fin du mois, quand ce n'est pas au début du mois, si je me bats contre cette mesure, c'est parce que je me bats pour le pouvoir d'achat. Et donc je dis aux Français... Je dis aussi aux retraités, mais à l'ensemble des Français. Si vous voulez être sûr que cette mesure ne voit pas le jour, votez pour la droite et pour le centre aux élections législatives.
Encore une fois, il a demandé hier en Conseil des ministres, est-ce que ce que les retraités qui seraient touchés par cette hausse de CSG voient une compensation par la taxe d'habitation supprimée.
Donc, c'est pas très clair tout ça. Même en le disant vous-même, Madame Artichoux, vous voyez bien que c'est pas clair. Alors si on veut être clair, si on veut le retrait de la CSG sur les retraités, il faut voter pour la droite et pour le centre. Il n'y aura pas cette augmentation de la CSG. Il y aura avec nous une baisse de l'impôt sur le revenu.
Vous êtes sur une ligne de crête un peu compliquée. Vous dites il ne faut pas s'opposer pour s'opposer, pas à l'ancienne. Hein. C'est Nicolas Sarkozy qui disait quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Vous dites, voilà, ça c'est un peu à l'ancienne, hein, c'est nous confirmer. On ne va pas faire comme ça, on va faire des propositions et c'est à Emmanuel Macron de tendre la main. Mais en fait, vous lui soumettez des tests et si vous estimez qu'il ne les passe pas bien, vous serez dans une opposition frontale.
Mais c'est pas
c'est
un
une espèce de,
c'est pas
de
un
fausse main tendue que vous faites ce matin.
Non, ce n'est pas un jeu politique. C'est tout simplement l'intérêt du pays. Certains disent qu'il faut donner sa chance au président, il faut donner sa chance à la France. On ne peut pas avoir les 5 ans qui viennent comme les 5 ans qui viennent de se passer. Je pense pour ma part qu'avec les solutions de la droite et du centre, on peut davantage être en sécurité, lutter contre le terrorisme plus efficacement, renforcer la justice avec le rétablissement des peines planchers pour les multirécidivistes, pour éviter l'impunité. Ce sont des solutions de la droite et du centre, mais aussi des solutions de bon sens. Et si le président de la République veut réussir, qu'il prenne aussi les solutions que nous proposons.
Et pour ça, il faudra
un maximum de députés de la droite et du centre.
Dernière question, est-ce que vous avez quelque chose de commun avec Laurent Wauquiez dans votre famille politique ?
On est tous les deux présidents de région. On appartient aujourd'hui à la même famille politique, mais bon, je vois bien où vous voulez en venir. Me faire parler de l'après-législative.
En deux mots.
Oui, voilà. Écoutez, voilà quelques mois, quand j'étais candidat au régional, et exaspéré par les déclarations de ceux qui n'étaient pas candidats au régional et qui parlaient de la suite, je leur disais « taisez-vous ». Alors j'ai l'intention, en ce qui me concerne, pour l'instant, de me taire.
Enfin, jusqu'aux élections législatives. Vous ne pouvez pas passer les trains comme les vaches, les regardent passer les TGV.
Mais attendez, il y a des candidats qui sont sur le terrain. Il y a des électeurs qui parfois sont déboussolés. Je les aide, je les soutiens. Alors pour l'instant, je me tais. Je ne parlerai des sujets de ma famille politique qu'après les élections législatives. S'appliquer une discipline à soi-même, c'est pas mal aussi.
Merci Xavier Bertrand d'avoir été en direct avec nous ce matin. Et merci à Franck Hanson d'avoir été à vos côtés au bureau RTL de Lille. Bonne journée.
Toute cette histoire, Ferrand, met à mal la loi de moralisation de la vie politique, vient de nous dire Xavier Bertrand. L'attitude du président de la République est en contradiction avec tous ses engagements. Xavier Bertrand qui propose une forme de deal sur les heures supplémentaires défiscalisées au président Macron et à ses équipes gouvernementales. Merci à tous les deux. L'entretien est bien entendu à retrouver sur le site rtl.fr.